FM.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h pour votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, au Liban, une frappe israélienne a visé aujourd'hui les environs de Beyrouth. Israël poursuit ses raids et ses opérations terrestres dans le sud du pays. Au moins 9 personnes, dont 2 secouristes et un soldat, ont été tuées. Nouvelle escalade dans le Golfe. Le Koweït affirme avoir subi une attaque iranienne d'une ampleur inédite. Des dizaines de missiles et de drones ont visé le pays, faisant un mort et plusieurs dizaines de blessés. En Algérie, toutes les procédures judiciaires dans l'affaire du journaliste français Christophe Glaise sont closes. Selon ses avocats, le journaliste sportif qui purge une peine de 7 ans de prison. Et on débute ce rendez-vous d'information par l'actualité au Moyen-Orient. D'abord, au Liban, une frappe israélienne a visé aujourd'hui les environs de Beyrouth. Israël poursuit ses raids et ses opérations terrestres dans le sud du pays où au moins 9 personnes, dont 2 secouristes et un soldat, ont été tuées. Le Hezbollah pro-iranien a annoncé de son côté avoir visé des militaires dans le nord d'Israël. Donald Trump a confirmé aujourd'hui avoir eu un échange musclé avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, affirmant dans une interview au New York Post être mécontent de la politique israélienne au Liban. Le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, s'est exprimé plutôt sur la situation au Liban. Il n'y a pas de solution sans l'affirmation d'un État libanais, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que cette affirmation passe par le désarmement du Hezbollah. On l'écoute.
Il n'y a pas de solution sans l'affirmation d'un État libanais. Il n'y en a pas. Et ça, on a quand même parcouru du chemin et la diplomatie française y est pour quelque chose. Il y a quelque temps, il n'y avait pas de chef d'État au Liban. Il y en a un, il y a un gouvernement, il y a des autorités constitutionnellement établies qui sont les interlocuteurs légitimes. Il y a au moins aussi une avancée, ce sont les liens directs entre Israéliens et Libanais. C'est historique et ça, pour le coup, il faut évidemment le préserver et le protéger. Mais l'affirmation de l'État libanais passe évidemment par le désarmement du Hezbollah. On disait que le Hezbollah était l'État. Ensuite, on a dit que c'était l'État sans l'État. Désormais, l'affirmation de l'État libanais doit passer évidemment par le désarmement du Hezbollah. Il doit aussi passer par un soutien aux forces armées libanaises. Ça m'amène peut-être à des éléments plus précis de réponse sans être trop long. Il y a 2 vides potentiels qu'il faut combler rapidement dans le moment diplomatique dans lequel nous nous trouvons. Le premier, c'est le vide sécuritaire. Ça passe par le soutien aux forces armées libanaises, dont on sait qu'on leur doit beaucoup dans la lutte contre le terrorisme, mais dont on voit bien que le désarmement du Hezbollah doit passer par une montée en puissance des forces armées libanaises. Ce que fait la France, c'est mettre d'ores et déjà sur la table une offre de moyens militaires qui permet d'imaginer un mandat nouveau. D'ores et déjà, la France a fait cette offre de service. Vous avez plusieurs scénario évidemment qui existe, un scénario à 5500 hommes, un scénario autour de 3000, un scénario autour de 2000. En tout cas, on va faire ce travail d'agrégateur, on va le faire avec les partenaires européens, parce qu'on ne doit pas être seul dans cette affaire, et sans créer d'incidents inutiles, parfois nous avons été trop seuls dans cette affaire, heureusement que les Italiens étaient là, mais d'autres pays européens doivent être davantage en première ligne pour nous aider à saisir le Liban.
Vous venez d'écouter le Premier ministre Sébastien Lecornu. Et c'est une nouvelle escalade dans le Golfe. Le Koweït affirme avoir subi une attaque iranienne d'une ampleur inédite depuis le cessez-le-feu du 8 avril. Selon les autorités, des dizaines de missiles et de drones ont visé le pays, faisant un mort et plusieurs dizaines de blessés. Les précisions avec vous, Nadia Bencher.
En effet, Nawal, le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis traverse sa plus grave crise depuis son entrée en vigueur il y a près de 2 mois. Le Koweït affirme avoir été la cible dans la nuit d'une vaste attaque iranienne. Selon son armée, 13 missiles balistiques et 17 drones ont été détectés dans l'espace aérien du pays. Les missiles auraient été interceptés au-dessus de plusieurs zones résidentielles, provoquant la chute de débris. Plusieurs drones ont néanmoins atteint l'aéroport international de Koweït. Un terminal a été endommagé, le trafic aérien suspendu pendant plusieurs heures et les autorités font état d'un mort et de 63 blessés. Dans le même temps, le commandement militaire américain pour la région affirme que plusieurs missiles iraniens ont également été tirés vers Bahreïn. Washington assure avoir répondu par des frappes de défense sur l'île iranienne de Keshm dans le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution revendiquent pour leur part des attaques contre une base aérienne au Koweït et contre le siège de la 5e flotte américaine à Bahreïn. Téhéran présente ses opérations comme des représailles à des actions américaines menées contre l'Iran. Cette nouvelle flambée de tensions intervient alors que les discussions entre Washington et Téhéran semblent dans l'impasse et que les affrontements se poursuivent également au Liban. Le regain des hostilités fait par ailleurs remonter les cours du pétrole dans un contexte d'inquiétude autour du détroit stratégique d'Hormuz.
Merci Nadia Bencher pour toutes ces précisions. On reste au Moyen-Orient. Les États-Unis et l'Iran se sont attaqués mutuellement cette nuit, chacun accusant l'autre de violer un cessez-le-feu toujours plus fragile, même si le contact entre les deux parties n'est pas rompu, selon Donald Trump. Le conseiller militaire du guide suprême iranien a mis en garde aujourd'hui contre un déluge de missiles et de drones en cas de nouvelle agression américaine. Donald Trump a annoncé qu'il aimerait rencontrer le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei. Dans le reste de l'actualité, en Algérie, toutes les procédures judiciaires dans l'affaire du journaliste français Christophe Glaize sont closes, ont annoncé ses avocats aujourd'hui, estimant que la voie est dégagée pour que le président Tebboune accorde sa grâce au journaliste sportif qui purge une peine de 7 ans de prison. En Tunisie, plusieurs responsables du parti Ennahda, dont son chef Rached Ranouchi, ont été condamnés hier à des peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité pour terrorisme. En Égypte, le célèbre opposant égyptien Ahmed Douma, figure de la révolution de 2011, a été condamné à un an de prison avec travaux forcés pour diffusion de fausses informations. Et l'Organisation mondiale de la santé a reconnu aujourd'hui que l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale avait bénéficié d'une importante avance, actuellement en train d'être rattrapée par la riposte humanitaire. Dans un tout autre volet, lundi, l'Union européenne a donné son accord à la création de centres pour le renvoi de migrants à l'étranger. Au Parlement européen, la droite et l'extrême droite saluent la décision de créer des hubs de retour dans des pays tiers. Un vote définitif aura lieu lors de la prochaine session plénière du Parlement européen. La députée européenne écologiste Mélissa Camara dénonce un recul en termes de droits humains pour les personnes qui seront expulsées dans ces centres. On l'écoute.
Ce que prévoit l'Union européenne, c'est un texte très dur et qui va permettre des reculs fondamentaux sur les droits des personnes exilées. Et en fait, on a eu une proposition de la Commission qui va dans le sens des volontés de l'extrême droite. C'est-à-dire que, comme vous l'avez indiqué, on va avoir des centres de retour à l'extérieur des frontières, un peu comme le modèle de Giorgia Meloni en Albanie. On va avoir des retours forcés qui vont devenir la norme. On va avoir toujours plus de détentions, parfois même dans des prisons, avec des prisonniers de droit commun, de personnes exilées. Et on parle aussi d'enfants qui vont être dans des prisons, qui vont être dans ces centres de retour. On va avoir des rétentions qui vont être plus longues. On va pouvoir aller jusqu'à 30 mois. Enfin voilà, on a tout un arsenal qui va dans le sens de ce que souhaitait l'extrême droite. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le texte qui a été négocié avec le Conseil et la Commission avant-hier est un texte qui a été travaillé par François-Xavier Bellamy avec l'ensemble des groupes d'extrême droite. Il faut savoir que François-Xavier Bellamy a proposé un contre-rapport qu'il a travaillé pendant des mois avec les groupes d'extrême droite. Et donc on voit leurs obsessions concernant les mineurs non accompagnés, on voit leurs obsessions concernant toujours plus de détention, des méthodes qui rappellent celles de l'ICE aux États-Unis. C'est-à-dire que par exemple, dans le texte final, on va avoir ce qu'on appelle les visites domiciliaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller traquer les gens chez eux. Jusqu'à chez eux, on va pouvoir fouiller leurs affaires, un peu comme les images qu'on a pu voir ces derniers mois avec ICE. On a tous été choqués par les images de ces enfants qui étaient arrêtés, on a tous été choqués par cette violence de la politique migratoire de Donald Trump. C'est ce qu'ils veulent aujourd'hui en Europe.
La députée européenne écologiste Mélissa Camara au micro de Loïc Barrière. Dans l'actualité en France, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a annoncé avec Gérald Darmanin diligenter une enquête administrative sur d'éventuels dysfonctionnements après une plainte pour viol sur mineur déposée en août 2025 contre l'homme de 41 ans soupçonné de l'enlèvement de Liana, une jeune fille de 11 ans dans le Gers. Le parquet de Bobigny a annoncé avoir saisi l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, après un signalement du député insoumis Ali Djouara, qui affirme qu'un adolescent de 13 ans a été éborgné samedi soir par un tir de LBD d'un policier à Bobigny après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On écoute le député insoumis.
Ce policier était manifestement dans son véhicule de patrouille et de service, a baissé la vitre manifestement de son véhicule et a tiré son LBD en direction de ce jeune homme et en cela a eu pour conséquence d'éclater son globe oculaire. Les premiers éléments et les premiers témoignages que j'ai pu entendre et écouter, je crois que manifestement le tir volontaire ne fait plus aucun doute et ce jeune aujourd'hui a perdu une partie de sa vue, à savoir son œil droit.
Ali Duhara, député insoumis. Et enfin, l'hommage au sociologue français Edgar Morin a lieu aujourd'hui aux Invalides. Emmanuel Macron salue, je cite, un destin exceptionnel du siècle qui ne céda jamais à la vérité d'un seul camp. On écoute le président de la République.
Pour lui, la vérité ne résultait jamais d'un seul camp, d'un seul dogme. L'engagement ne pouvait être l'embrigadement. Et l'avenir était promis au chaos si l'on cédait à l'accablement ou à l'inaction. Pour Edgar Morin, cette pensée complexe fut toujours le prélude à l'action juste. Pensée complexe, le mot intimide. Edgar Morin, pourtant, l'avait illustré par sa vie. La partie vaut pour le tout. Vie d'un siècle français. À présent, il n'est plus. Et jamais Edgar Morin n'a paru si vivant. Vivant par ses intuitions, son travail sur les rumeurs, devançant les algorithmes devenus fous, vivant grâce à son œuvre somme, la méthode, plaidant l'unité de tous les savoirs, vision éclairée à l'heure de l'intelligence artificielle. Vivant parce que la nécessité de réconcilier les hommes avec la nature et avec eux-mêmes n'a jamais été si impérieuse. Êtes-vous heureux ? C'était la question que posait aux passants Edgar Morin dans son film documentaire tourné avec Jean Rouge, Chronique d'un été. Sommes-nous heureux ? Heureux de l'écouter encore. Car Edgar Morin enseigne que nos générations confrontées à tant d'épreuves politiques, climatiques, stratégiques, économiques ne doivent jamais perdre l'espérance dans l'homme, seul et ultime responsable du monde tel qu'il est. Avec Edgar Morin, s'éteint un destin exceptionnel dans le siècle. Mais cette énergie française, généreuse, ambitieuse, universelle, va continuer de renaître.
Emmanuel Macron, c'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.